Radio Okapi. Jeunes.
Bonjour à tous, nous restons dans la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance de la RDC dans 100% jeunes, et ce sera tout ce mois de juillet. Après le regard des jeunes sur les 58 ans d'accès du pays à l'indépendance et le rôle qu'ils comptent jouer pour le développement de la RDC, nous abordons aujourd'hui un thème sur l'éducation et l'instruction des jeunes. Quelle lecture faire du système éducatif congolais 58 ans après? Comment les jeunes apprécient ce système? Vous allez suivre quelques-uns d'entre eux tout à l'heure. Et aussi des parents et des enseignants qui s'expriment à ce sujet. Bienvenue à tous. Vous le savez, 100% jeunes, c'est le magazine des jeunes avec les jeunes et pour les jeunes. Et c'est par eux que nous commençons. Hervé Voka a interrogé quelques-uns d'entre eux sur ce qu'ils pensent du système éducatif congolais. Voici leur réponse.
En tout cas, sur les systèmes éducatifs ici, en RDC, chez les Congolais, en tout cas, je dirais que je n'apprécie pas trop le comportement que nos autorités éducatives d'université affichent envers nous qui sommes étudiants. Par exemple, de nos jours, on peut rencontrer un étudiant qui est vraiment intelligent et qui a le don, il a des potentiels, il a vraiment une bonne expérience, mais qui réussit peut-être pas parce qu'il n'a peut-être pas eu de l'argent en poche afin de s'en sortir et tout qu'on sort. Il y a parfois des étudiants qui sont pas intelligents, mais les professeurs leur facilitent la tâche parce que ils ont de l'argent en poche et les professeurs reconnaissent le fait que cet étudiant est passé de classe seulement parce qu'il a eu à corrompre et tout qu'on sort. Et du côté de nos autorités, nous ne nous sentons pas vraiment protégés ou nous ne nous sentons pas bien encadrés. Pourquoi? Parce que c'est vraiment rare de nos jours de rencontrer un étudiant qui a repris une classe ou encore un cycle de graduat ou de licence parce que il a vraiment échoué par manque d'intelligence. Non, la plupart reprennent parce qu'il avait peut-être fait une pause ou parce qu'il venait plus ou peut-être à cause des frais, mais on ne tient plus compte vraiment de l'intelligence et de la sagesse.
Le système éducatif actuellement n'est pas au top comme on l'avait au début, compte tenu de la situation financière du pays et la mauvaise gestion des parents vis-à-vis aux enfants. Et aussi là, on a l'habitude de copier une éducation qui n'est pas appropriée à notre culture africaine. C'est ce qui a fait en sorte que on puisse avoir un système éducatif qui n'est pas au top. Il faut que les deux travaillent en collaboration, et les parents et l'État aussi travaillent en collaboration pour avoir une éducation comme ils voudraient, afin de préparer la jeunesse à une capacité de gérer le pays. Il y a plusieurs manières d'améliorer le système éducatif. La première des choses, il faut d'abord veiller sur les écoles actuelles, parce qu'il y a plusieurs écoles privées qui viennent et ils ne donnent pas le meilleur de soi de l'enseignement.
Au fait, j'ai remarqué qu'au Congo, les étudiants, les élèves en général aiment bien, disons, la plupart aiment bien étudier, mais on n'a pas assez de moyens pour cela.
Donc, moyens financiers ou matériels?
Disons, d'abord des matériels, côté matériel didactique, et on voit la volonté de certains et de certains professeurs, mais vu qu'ils ne sont pas bien payés, ils sont voués à faire des choses pas bien, pas dites normalement, mais ils le font parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés. Donc c'est ça le problème. Mais à part ça, on voit plus la corruption, on voit vraiment la corruption. Ce qui autrefois s'est passé correctement, mais maintenant là, il n'y a pas du sérieux. Il y a même des parents qui hésitent et ont peur de pouvoir permettre à ce que leurs enfants puissent étudier dans certaines écoles parce qu'on a déjà des nouvelles disant que dans tel, il n'y a pas le sérieux, il n'y a pas du sérieux. Et on voit que certaines choses sont négligées. Normalement, on devait plus marteler sur ça, mais maintenant là, c'est vraiment négligé. Ce n'est plus considéré. Les gens préfèrent étudier ailleurs qu'au Congo. Parce qu'avant, on le sait bien qu'il y a d'autres pays qui préféraient venir au Congo pour étudier. Mais maintenant, là, ce n'est plus le cas.
Après les jeunes, suivant à présent quelques parents, ils nous font aussi leur lecture sur l'éducation en comparant leur époque à celle d'aujourd'hui.
Le premier palier, c'est celui qui concerne la période d'avant l'indépendance jusqu'aux années 65, on peut même aller jusqu'à 68. Et puis le deuxième volet, c'est ce qui suit. Dans le premier volet, on peut dire que, tout d'abord, parlons des considérations d'ordre général. L'enseignement, c'est un métier qui est noble. À l'époque, on n'avait pas tellement de cadres, mais l'enseignement était élitiste, dans la mesure où l'enseignant était motivé. Même les enseignants de l'école primaire ont senti un certain dépassement. L'État prenait à charge les enseignants, dans ce sens qu'il était motivé. Et le résultat des apprenants, pour ainsi dire, était vraiment positif. Et puis, il n'y avait pas le système de paiement des enseignants par les parents. Et on nous fournissait même des fournitures scolaires par l'État. Donc l'État prenait en charge les enseignants. Mais dans le deuxième palier, l'enseignement comme tel est au rabais pour plusieurs paramètres. Le manque de motivation de la part des enseignants parce qu'ils ne sont pas bien payés. L'État ne prend pas en charge les enseignants. Et puis il y a le système de coopération entre guillemets, le branchement. C'est ce qui fait que l'apprenant n'est pas motivé, il s'attend à ce qu'il donne quelque chose disons au guide, le guide, le facilitateur, c'est-à-dire l'enseignant, et ce qui fait qu'il ne travaille pas bien, c'est la facilité. Et puis aussi des écoles qui naissent comme des champignons. Et ces écoles ne passent pas du tout sous contrôle du ministère. Mmh. Et puis, à la fin, ces résultats que les enfants obtiennent dans certaines écoles, tout d'abord, l'enseignant n'est pas du tout qualifié. Et ce qui fait que l'enseignement n'atteint pas des résultats escomptés. Donc, il faudrait vraiment une certaine refondation de l'enseignement pour que ça atteigne des résultats vraiment efficients dans notre pays.
Moi, je pense que nous avons un grand problème avec notre système d'éducation. Ça, on doit rénover cela. C'est-à-dire qu'on doit chercher à réviser un peu les contenus des cours. Je veux donner l'exemple, par exemple, de l'histoire. Nous passons notre temps, excusez-moi les termes, à enseigner les enfants l'histoire de l'Empire du Mali, l'Empire du Songhai. Or, il y a des jeunes gens qui viennent de décrocher les diplômes cette année, qui savent même pas, qui savent pas qu'il y a eu dans ces pays un fameux système d'un plus 4. Ils entendent, 1 plus 4 c'est quoi? Et en enseignant, par exemple, là nous essayons d'ouvrir certaines parenthèses. Et il y a un moment où il y avait des enfants de 12 ans qui étaient militaires, les Kadogo. Ils entendent les termes Kadogo, mais ils connaissent pas. Et ça, c'est d'abord le premier point. Si je dois encore enrichir cela, c'est par rapport à la mondialisation. Ce qui m'étonne, je vois dans la section commerciale aujourd'hui, on enseigne les enfants à faire de la dactylographie. Or, dans le monde moderne, ce n'est plus ça. Vous allez voir quelqu'un qui est diplômé en technique commerciale, mais qui ne sait pas manier un ordinateur. Voilà, le problème est beaucoup plus dans ça. Et quand on va d'abord aller dans le contenu du cours, le contenu de matière des différents cours, à ce moment-là, on verra le bon salaire des enseignants. Ailleurs, un huissier gagne fois 3 de ce qu'un enseignant peut gagner en RDC. Même dans notre ministère, je ne sais pas si c'est de l'injustice ou bien c'est la répartition, elle est faite comment? Voilà un peu ça. Et deuxièmement, c'est côté aussi enfant. Ce que je remarque, je le peins même, je suis un artiste peintre, je fais plus la promotion de l'éducation. Ce que je remarque, ça fait au moins 10 ans, les élèves n'ont plus un désir ou bien une envie d'apprendre. Les études sont devenues comme juste une formalité. Vous allez voir, nous recevons souvent des parents, même à la cité, moi on attend encore à Silissa.
Une contrainte.
Voilà, donc attend à Silissa, cela est dû à la pauvreté ou bien à la crise. Parce qu'il va y avoir un papa ou une maman qui a 4-3 enfants, 2 à l'université, et elle est en train de se battre, maman ou bien papa, que Patrick ou bien, je ne sais pas moi, Clément finissent vite. La connaissance, le papa s'en fiche.
L'invité. Vous êtes toujours sur Okapi et c'est le magazine 100% jeune qui se poursuit. Nous recevons à présent notre invité, il s'agit de Jacques Chimanga, coordonnateur du CONEP. Il s'agit de la Coalition Nationale de l'Éducation pour Tous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle lecture faites-vous du système éducatif congolais 58 ans après?
Eh bien, 58 ans après, le système éducatif congolais présente d'énormes défis, surtout en termes de financement, qui a un impact aussi bien sur l'accès que la qualité de l'éducation. Tenez, nous avons un système aujourd'hui qui est confronté pratiquement à un nombre trop important d'enfants qui sont en dehors de l'école. Ils sont environ 7,3 millions d'enfants qui sont en dehors de l'école. Et parmi eux, il y a au moins 3,5 millions qui ont l'âge de 6 à 11 ans. Ça veut dire l'âge de la scolarisation primaire et qui devrait être en principe gratuite. Et comme vous le savez, depuis 2010, le pays a eu un document pour la planification de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et dans ce document, il a été bien souligné que progressivement, les frais de scolarité devraient être diminués jusqu'à leur élimination totale vers l'année scolaire 2015-2016. Nous sommes aujourd'hui en 2018. Le régime, plutôt, on n'a pas réussi à résoudre ce problème et beaucoup d'enfants entrent à l'école mais ne terminent pas leur cycle normal et c'est vraiment un grand défi. Toutefois, le Congo a entrepris depuis 2010 une série de réformes en ce qui concerne notamment pour améliorer l'accès à l'éducation, la qualité mais également la gouvernance. Mais il faut avouer que le cap de financement est tel que on ne s'est pas trop avancé. Tenez, il y a au moins, en ce qui concerne le gap à combler, chaque année, le Congo a besoin d'au moins 2,9 milliards de dollars par an pour espérer atteindre les objectifs de l'éducation, notamment l'objectif de développement durable 4, et même combler le gap de financement de notre propre stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. C'est un vrai problème, c'est un réel problème, et qu'aujourd'hui, et ça pose véritablement problème, et cela a un impact sur l'accès des enfants, mais également sur la qualité. Vous n'avez qu'à voir ce qui sort aujourd'hui. 58 ans après, il faut dire que le pays a beaucoup perdu. Regardez, aujourd'hui, quand les enseignants de l'école primaire sont formés dans nos sections pédagogiques, mais combien sont-ils encore capables, ceux qui sortent des humanités pédagogiques, d'aller directement dans une salle de classe et enseigner. Parce qu'en fait, déjà, il y a un véritable problème en ce qui concerne la formation de nos enseignants au niveau primaire, et ça a un problème au niveau de la qualité des apprentissages. Donc ça, c'est un problème.
Oui.
Donc il est important que l'on voit le problème en termes de gap de financement, mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, la barrière la plus importante reste la barrière financière. Tant que les parents vont continuer à payer, alors que le Congo a pris l'engagement de faire en sorte que l'enseignement primaire et secondaire soit gratuit, donc il est clair que nous n'arriverons pas. Il faut donc une mobilisation de ressources importantes afin de faire en sorte que l'enseignement primaire soit au niveau de base, que les enfants n'aient pas à interrompre leur cycle. Le fait que les enfants interrompent le cycle, ça a un impact. Ça a un impact sur la qualité des apprentissages après, et ça a un problème.
Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est notamment liée à l'actualité. Le ministre de l'EPSP a annoncé dernièrement que dès l'année scolaire 2018-2019, l'école primaire passe de 6 à 8 ans sur l'étendue de la RDC. Est-ce que c'est une riposte efficace pour améliorer le système éducatif congolais?
Cette réforme a d'abord une base légale. La loi cadre de l'enseignement, dans notre loi cadre de l'enseignement national, a prévu notamment que l'enseignement de base comprendrait 8 années. 8 années. Donc, que l'on se conforme à la loi cadre n'est qu'une très bonne chose. Ce qui est très important, faire la réforme est une chose, mais il faut doter le système des moyens nécessaires pour que cette réforme réussisse.
Engagement citoyen, le magazine de l'éveil de la conscience de chaque citoyen pour son implication dans le développement du pays. Engagement citoyen pour un nouveau type de citoyen, pour un Congo nouveau. Suivez ce magazine de promotion des bonnes pratiques citoyennes. Tous les samedis à 16h30 et 22h30, le lundi à 14h15. Engagement citoyen, engageons-nous pour donner un avenir meilleur aux générations futures.
Que penser de l'enseignement technique et professionnel qui n'intéresse souvent que très peu ou pas du tout certains jeunes de nos jours? Hervé a rencontré à l'Académie de Beaux-Arts Monsieur Chikama Kalamba. Il est artiste peintre et professeur en art.
Mais le diplôme n'est pas fait pour tout le monde. On devrait avoir des gens qui sont juste des cadres, des gens qui font juste des formations. Quelqu'un qui veut faire 4 ans dans un atelier ou bien à l'INPP. Vous voyez, du genre INPP, on devait les multiplier. C'est là aujourd'hui, je vois, c'est tout le monde qui est licencié. Même c'est quelqu'un qui n'a pas de capacité à écrire. Or, il pouvait être un bon plombier. Tous ces enfants qui décrochent ces diplômes savent qu'il y a économie, médecine, droit. Quand tu lui parles qu'il y a animation culturelle, il est étonné. Quand tu lui parles de l'agronomie, c'est un département. J'ai fait un tour une fois à Liti Gombe, j'ai vu la section commutation. J'étais étonné de voir les élèves de la 5e année qui effectuent leur stage à Télé 50. Et parmi eux, ils m'ont dit qu'il y a de ceux-là qui excellent, donc qui sont engagés. Voilà un peu, on doit donner plus d'informations aux enfants. C'est pas normal, l'Uniquid produit 5000 diplômés en économie 2018. Dans les 5000, il n'y a même pas 100 qui obtiennent le boulot. Les autres se déguisent en autre chose. Or, c'est pas vrai. Nous sommes en train de donner les papiers et non les diplômes. Ça, ce sont que mes propos à moi. Or, on devrait un peu rendre la formation pragmatique. Il y a des gens qui pouvaient tout simplement être des secrétaires de formation. Et on devrait voir des choses comme ça. Où il y a un raccourci. Même dans mon domaine de la peinture, il y a des gens qui vont prendre la peinture bâtiment. La peinture bâtiment n'existe pas à l'académie. Mais il y a des gens qui le prennent là-bas, comment repeindre des bâtiments, comment mettre du mastic. On fait une formation de 9 mois, si je n'oublie pas. Les initiatives telles que l'esthétique coiffure. Nous avons des filles qu'on impose les études. Elles peuvent être utiles dans la société rien que par l'esthétique, par l'hôtellerie. Aujourd'hui, quand on parle de l'hôtellerie, ça étonne les gens. Il y a quelqu'un qui peut être licencié, mais qui ne connaît pas comme manière par exemple un ordinateur, en quoi est-ce que sa licence est importante? On doit laisser un peu de temps. Ça, c'est mon avis. Je ne suis pas de minimiser. Je ne minimise pas les titres académiques. Mais on doit rendre la vie pratique. On peut faire 3 mois, 6 mois dans un centre de formation. On n'a pas, par exemple, la maintenance. On doit plus accompagner les enseignants. J'ai une petite expérience comme étant enseignant. Tous les parents qui viennent nous voir en particulier, nous essayons un peu d'enseigner leurs enfants en particulier. C'est-à-dire quoi? Je peux avoir une classe de 40-35 élèves. Si le parent de l'élève X vient me voir, non papa, je veux que tu encadres bien mon fils parce qu'il est le seul garçon, l'unique fille de la famille. Voilà. J'ai compris les soucis du parent. Je peux enseigner par exemple un cours magistralement et pour cet enfant-là, je vais essayer un peu de... même pour quelques secondes, de lui poser la question, as-tu compris la leçon? Parce que j'ai les souvenirs, son parent l'accompagne. Mais il y a des enfants, je ne sais pas, les parents qui ne se voit à l'école que les 2 juillet. Tout ce que l'enfant fait, ça lui importe en rien. Voilà, les parents doivent accompagner les enfants dans tout ce qu'ils font. Ils doivent être en contact avec les parents et avec les enseignants, avec l'école. Ça, c'est un conseil que je peux donner aux parents. Et deuxièmement, de faire visiter les enfants dans des universités, dans des centres de formation. Encourager les enfants. Moi, je me rappelle lorsque j'étais encore gamin, ma maman me rappelait toujours, tu as fait les arts, tu as fait l'anglais, il est temps pour toi d'aller apprendre l'auto-école. Et je voyais, mais qu'est-ce que maman veut de moi? Mais c'est après que j'ai compris ça. Et dans le monde actuel, c'est un monde qui appelle plus les gens à la polyvalence. Je suis peintre, j'ai fait aussi l'interprétariat d'anglais. Ce sont des choses qui me permettent de bien vivre. Je peux aussi facilement repeindre, faire la sérigraphie. Voyez un peu, nous touchons un peu à tout pour vivre. L'essentiel est d'être utile dans sa société. Et aux enseignants, c'est d'aimer d'abord leur travail, quand même que nous sommes très mal rémunérés. Ce qui importe tout plus, c'est la pérennisation de la génération. J'ai été enseigné par mes enseignants. Aujourd'hui, je suis enseignant. J'enseigne. Ce que j'enseigne, vont aussi enseigner. Nous avons un rôle très prépondérant dans la société. Nous devons le faire avec conscience. Et essayer aussi, parfois, de conscientiser les enfants. Quand même que le monde est presque, entre guillemets, foutu. Parce qu'il y a des enfants qui comprennent plus la quintessence des études. On doit rendre les études plus pratiques. On doit laisser un peu le paperasse, comme disait mon enseignant à l'université. On doit rendre, quand vous parlez par exemple d'une matière qui est théorique dans un livre, amenez les enfants dans les contextes actuels. Quand vous parlez par exemple de l'empire Lunda ou bien, essayez de les rendre un peu dans les contextes actuels. C'est ce que je peux dire aux enseignants, d'être plus moderne, parce qu'on avance. Avant, on parlait dans des phonies, aujourd'hui c'est les WhatsApp.
La mise à jour.
Voilà, mise à jour. Voilà, ça c'est le mot juste. Vraiment. La mise à jour de l'enseignement, c'est très important. Aux élèves, aux enfants, c'est toujours le même mot, l'encouragement qui revient et le goût de l'apprentissage. Vous savez, mon père insistait toujours, quand j'étais enfant, il me disait, je peux tout te laisser, et mon fils, sache qu'il y a des choses que tu ne peux jamais oublier, c'est les études et le travail. En grandissant, j'ai compris, quand tu parlais des études, c'est la théorie. En fait, chercher à connaître ce qui est caché, et le travail, c'est la pratique. Et voilà, c'est ce que je peux plus demander aux enfants, c'est cet amour-là. Et s'il faut bien maîtriser la langue de Molière, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup suivre des émissions à la télé. Et ce sont des choses qui nous permettent. Il ne faut pas rester figé dans ce que l'enseignant dit, nous sommes dans la pédagogie moderne. Aujourd'hui, on doit aussi apporter la matière, une fois l'auto-formation, on doit apporter la matière à l'enseignant.
rappelle à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment ou qui viennent de nous prendre en cours que vous êtes toujours en train de suivre le magazine 100% Jeunes, le magazine des jeunes pour les jeunes et par les jeunes de Radio Okapi. Et aujourd'hui, nous parlons du système éducatif congolais, 58 ans après. Qu'en est-il, Monsieur Jacques Tshimbalanga? Je rappelle aussi que vous êtes coordonnateur du CONEPT. Il s'agit de la Coalition Nationale de l'Éducation pour Tous. Tout à l'heure, vous nous parliez notamment de l'aspect qui concerne le financement de l'enseignement. Nous avons également évoqué le besoin de rester dans un plan stratégique pour améliorer le système éducatif, notamment avec la proposition de réforme de l'EPSP, du ministre de l'EPSP. Maintenant, est-ce que vous avez des propositions concrètes à faire pour essayer de régler cette problématique de l'amélioration du système éducatif congolais?
Le Congo, en 1981-82, était l'un des rares pays qui, malgré ses problèmes, arrivait à donner jusqu'à 33% du budget à l'éducation. Ça n'a pas gêné que nous ayons un système sécuritaire qui fonctionne, un système de santé qui fonctionne à sa manière. Et donc, je dis aujourd'hui que c'est un problème de choix politique. Si, comme nous le disent nos autorités, qu'ils veulent faire de l'éducation une priorité, cela doit être traduit par, justement, les allocations budgétaires conséquentes par rapport à cela. Nous disons que ce pays ne peut pas se payer le luxe d'avoir moins de 25% du budget national à l'éducation. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'avoir moins de 25% du budget national à l'éducation, c'est véritablement un problème. Deuxièmement, c'est que maintenant nous avons parlé de la réforme qui est en train d'être menée et qu'aujourd'hui on veut évoluer vers une éducation de base gratuite. Mais en fait, c'est aussi des engagements que le gouvernement a pris d'allouer au moins 54% du budget de l'éducation à l'éducation de base. Parce que c'est là la base, comme on le dit, c'est là la base. Il faut donc allouer des ressources conséquentes. Pourquoi nous le disons? Parce que regardez, le système actuel du financement de l'éducation est essentiellement tourné vers les ménages. Ce sont les parents qui payent. Les parents payent dans notre système éducatif, au moins en termes de financement, 73% du financement de l'éducation contre 23% seulement par l'État. C'est en réalité un système éducatif qui est privatisé, même si on ne le dit pas clairement. Alors que le Congo a pris l'engagement de faire en sorte que tous les enfants aillent à l'école. Donc ça, c'est véritablement un affront, c'est véritablement un problème, une violation massive du droit à l'éducation des enfants. Et autre chose que si nous voulons bien redresser les choses, il faut véritablement abandonner, c'est de continuer à taxer les parents à la tête des enfants sous forme de frais de scolarité dans l'éducation. Et de faire en sorte que les frais que l'on sorte, regardez par exemple, tous les frais que l'on sorte aujourd'hui, que ce soit les bulletins, Cerny, tout ce que l'État pouvait prendre en charge en termes d'imprimés, on les met sur la tête des parents. Ce n'est pas normal, parce qu'en réalité, on devrait éviter qu'il y ait une barrière sur la route de l'enfant à accéder à l'école et à achever son cycle. C'est donc là des points importants. Il faut abandonner le financement de l'éducation par les ménages, même si l'on dit que les ménages doivent continuer. Non, non. Mais il faut que l'État, la prise en charge de l'éducation soit à la charge de l'État. Comme nous disons la prise en charge de l'éducation soit à la charge de l'État, nous voulons dire ceci, que le citoyen participe déjà au financement de l'éducation. En payant les impôts, droits, taxes et redevances, l'État a le devoir de donner aux citoyens membres de la communauté nationale des biens et services nécessaires pour leur épanouissement, notamment l'éducation et la santé. Nous participons déjà en payant nos impôts, droits, taxes et redevances. Et donc, c'est cela. Mais aussi, l'autre problème qui gêne, qui gangrène le système, c'est que c'est la corruption qui a eu domicile, notamment, qui concerne les frais, la taxation des frais de scolarité. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Chaque niveau hiérarchique veut avoir un pourcentage sur ce qui est perçu dans nos écoles. Ce qui fait que, dans certains cas, il y a même plus de 60% de l'argent qui entre à l'école, qui ne reste pas à l'école, mais qui monte dans les différents niveaux hiérarchiques, aussi bien au niveau provincial que central. Et donc là, c'est comme un système où nous avons un homme d'affaires qui avait investi et qui attend ses parts sociales, et des hommes d'affaires plutôt qui avaient investi et qui attendent leur part sociale. Et donc c'est ça, et c'est comme ça que nous disons que le système éducatif congolais, même le système de l'éducation publique, l'enseignement public, aujourd'hui est privatisé et il faut renverser la donne, remettre l'école à l'État financer l'école par l'État, mais également les confessions religieuses ne nous aident pas trop. Parce qu'aujourd'hui, même le financement de l'éducation, les confessions religieuses sont aujourd'hui celles qui sont les plus chères et même perçoivent des taxes sur les enfants, sur les familles, à la tête des enfants. Et donc, c'est un véritable problème qu'il faut régler vraiment en question. Les idées sont nombreuses. La Coalition nationale de l'éducation pour tous, d'ailleurs, est en train aujourd'hui de mener, à commander une étude pour donner des idées claires, justement, en ce qui concerne comment le pays peut aller, imaginer, avoir des très bonnes idées en ce qui concerne le financement innovant et dans les quelques jours qui vont suivre ici, ça sera publié. Dans tous les cas, nous encourageons l'État congolais et donc toutes les parties prenantes, l'État, les parents, les familles, les églises, puisque tout le monde est impliqué, à imaginer aujourd'hui comment nous pouvons ensemble financer l'éducation sans recourir au financement des ménages, mais faire financer l'éducation autrement en utilisant les ressources qui nous échappent.
Quel bilan après 58 ans de gestion politique et sociale du pays par ses propres enfants? Un scientifique congolais de Goma reste positif pour le professeur Kamana, philosophe et enseignant d'université. Malgré les vicissitudes d'un parcours chaotique, l'espoir reste permis. Le professeur Kamana, qui est au micro de Jules Ngala, donne quelques pistes de solutions pour relever le système éducatif congolais.
Notre gouvernance a été catastrophique. Il faut maintenant apprendre à la reconstruire. Notre capacité organisationnelle en tant que peuple a été tout aussi catastrophique parce que un peuple vaut ce que valent ses dirigeants et les dirigeants valent ce que le peuple vaut. Il y a là une dialectique qui nous demande maintenant de pouvoir construire l'avenir à partir du constat que nous faisons de cette double catastrophe de la gouvernance et du manque de, d'organisation. J'ajouterai encore parmi nos faiblesses que nous avons tué notre système éducatif. Et un peuple qui détruit ses propres structures d'éducation est un peuple qui risque de détruire l'avenir. Il faut tout de suite que nous remettions notre système éducatif sur les rails afin que l'avenir soit à la hauteur de ce que nous pouvons espérer de l'éducation dans notre pays. Mais tout cela que j'indique comme des faiblesses, j'ajoute, nous avons les moyens de les vaincre et nous devons maintenant nous organiser en fonction de ces moyens et de ces capacités. Le Congo ira mieux.
Nous pourrions compter sur qui pour nous aider à parvenir à cet objectif d'avancement ou de développement?
Nous devons nous mobiliser, nous tous, en fonction du Congo que nous avons maintenant dans nos rêves. Et cette mobilisation, elle se fera partout. Elle se fera dans les universités, dans les écoles secondaires, dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles, dans les églises, dans les mouvements des jeunes, les mouvements citoyens. Partout où les gens sont ensemble, déjà au niveau de nos familles, tout cela, il faut que chaque Congolais se mette en tête que le Congo de demain s'est construit aujourd'hui et que nous en avons la responsabilité aujourd'hui.
Et c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes toujours dans la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance, dont 100% jeunes. Après le système éducatif, nous aborderons un autre aspect dans notre prochain numéro. Merci à Hervé Vauca et Jules Ngala qui ont contribué à la production de ce magazine supervisé par Thérèse Kankou. La prise de son était assurée par Polydor Basunga. Je suis Baya Chamala. Au revoir et à la prochaine.